tic-toc, tic-toc, tic-toc.
L'actualité, on en parle.
Tic-toc, tic-toc, tic-toc.
Avec Jean-Yves Bretot et son invité.
Et je reçois ce mercredi en direct de 12h30 à 13h, dont on s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com, Anne-Marie Gillet et Dominique Benoît-Fraud qui nous présentent le deuxième tome du recueil de souvenirs Je me souviens Le Mans, publié par un éditeur sartois, Éric Jamais. Bonjour.
Bonjour.
En 1997, vous aviez publié déjà un premier tome qui transmettait des souvenirs de Mancel et de Manceau dans leur ville de 1920 à 1960. D'où est partie cette idée de collecter des souvenirs de vie au Mans ?
C'est Georges Perec qui nous a donné cette idée-là. Mais Georges Perec, lui, c'était des souvenirs à lui, et nous, on a voulu que ce soit le souvenir des autres. Et comme ça avait bien marché la première fois, ben Dominique a dit, il faut qu'on recommence. Mais on vous prévient tout de suite, il n'y aura pas de troisième tome dans 30 ans.
Ah ben on verra. On ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Voilà, alors effectivement, dans votre démarche, hein, il ne s'agissait pas, comme Georges Perec, d'écrire vos propres souvenirs, mais de recueillir celles de Mancel et de Manceau. Alors lui, il avait publié en 1978. Pourquoi vous avez privilégié ce choix du témoignage des autres plutôt que du vôtre ?
Ben déjà parce que ça nous semble peut-être plus riche. Nous ne faisions pas vraiment un travail d'écrivain et d'écrivaine, mais nous avions envie d'être plus passeuses de mémoire. Déjà pour le premier, avec Anne-Marie, on s'était rendu dans beaucoup de lieux de la ville. Et là, nous avons recommencé par un tome 2, justement 30 ans après, avec une association, le prix de la nouvelle francophone inédite. Et là, c'est aussi un travail collectif de l'association. Plusieurs personnes de l'association ont collecté des souvenirs, ont moissonné des souvenirs un peu partout dans la ville. Des marchés, des maisons de retraite, différents lieux. Nous sommes aussi allés à la maison des patients, dans des centres sociaux.
À la fête des voisins.
À la fête des voisins. Enfin, toute occasion qui se présentait dans le quartier d'Iseville, où on a récolté beaucoup et d'une façon très riche. Et ça a été un petit peu notre démarche.
28 années sont passées après le tome 1, publié en 1997. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Ah ben, il faut tout de même que les souvenirs se construisent. C'est pas, sinon, ça, on va voir les mêmes. Il fallait quand même que ça change. Et c'est vrai que ça a changé. C'est pas les mêmes personnes. On a même des beaucoup plus jeunes. Les premiers souvenirs que pour le premier tome, je me souviens d'une dame qui était née en 1910. Bon, on peut plus l'interroger maintenant. Mmh. Hein. Mais voilà, c'est ça. Mais c'était pour montrer aussi que la ville, elle avait bien changé. Ça fait énormément de choses ont changé, y compris la population. On a remarqué, par exemple, que les souvenirs d'aujourd'hui étaient plus des souvenirs personnels plutôt que des souvenirs de l'ensemble. Quand on a commencé à comparer, on s'est rendu compte de ça.
C'est plus des souvenirs affectifs.
Oui.
Parce que moi, je me souviens, dans le premier tome, on parlait notamment d'un bar qui était à la préfecture, où j'allais, quand j'étais lycéen, prendre mon café le matin, qui était le Café du Nord, par exemple.
Oui, c'est vrai, tiens, je me souviens du Café du Nord.
Voilà, du Café du Nord qui a disparu. Donc, c'est vrai que la ville a changé non seulement au niveau de son environnement architectural, au niveau de ses commerces, mais est-ce que les Manceaux et les Mancelles ont changé, d'après vous ?
Pas seulement les Manceaux et les Mancelles, je pense que la population en général, les gens vivent quand même un petit peu plus tournés vers eux qu'il y a 30 ou 40 ans.
Bon, il y a aussi des nouveaux modes de vie.
Oui, moi ça m'avait frappé parce que j'ai quitté Le Mans pendant une vingtaine d'années. Je suis revenue il y a 5 ans. Et ça, j'avais vraiment trouvé la ville différente. Je venais assez régulièrement. Et c'est ça qui m'avait donné envie de recommencer.
Et
de voir justement ce qu'on allait collecter. Mmh. C'est toute une sociologie finalement, dans le premier et dans le second. Et ce qu'on pouvait comparer, l'évolution sur le travail, par exemple, les lieux de travail, les les façons de travailler. Dans ses souvenirs, à quoi sont attachés les manceaux et les mancelles lieux.
Voilà, qu'est-ce qui vous avait fait revenir justement par rapport au changement du monde de l'époque?
Je suis revenue parce que déjà j'avais des liens affectifs, j'avais des enfants qui étaient restés sur la ville, j'étais à Paris. Je me plaisais beaucoup, comme toute grande ville. Et quand je suis revenue, ce qui m'a beaucoup plu, j'avais quelques liens d'amitié que j'avais forcément gardés, mais c'est que tout de suite, c'était... moi, ce qui m'intéressait, c'était au niveau du culturel. Mmh. J'ai trouvé que la ville avait vraiment... bien évolué à ce niveau-là, qu'il y avait toujours quelque chose à faire qui pouvait intéresser, que l'on se mêlait facilement à des associations, et qu'il y avait une offre. Moi, c'est ce qui m'a touchée.
Dominique Benoît Froid, à quel moment vous êtes revenu justement au Mans? C'était quelle période?
Il y a 6 ans.
Il y a 6 ans. Donc, c'était un peu l'héritage culturel qui a été quand même enclenché par Robert Jarry, les carrefours de la pensée,
le forum Le Mans,
il y a aussi Le Mans Cité Chanson. Il y a eu toute cette période avec le docteur Henri Lelièvre, d'ailleurs, qui était l'adjoint à la culture. Ensuite, il y a eu Jean-Claude Boulard, qui était lui aussi extrêmement féru de culture, qui a eu cette continuité de prolonger en tout cas ces initiatives-là. Puis aujourd'hui, il y a Stéphane Le Foll, qui est aussi très épris de culture, avec notamment un remodelage, je dirais, du Salon du Livre, que vous avez bien connu, Anne-Marie Gillet.
Ah oui, j'allais dire, il y a aussi ce qui est pour moi les 24 heures du livre. Oui, bien sûr, c'est né avec Jarry. Dès la municipalité en place, les 24 heures ont commencé. C'était lire et vivre.
Exactement, l'association qui était hébergée à la MJC Prévert, d'ailleurs.
Bien sûr, en bas.
De fait, c'est plein de souvenirs pour vous, le fait de revenir à la MJC Prévert.
Moi, je pourrais écrire à moi tout seul. Je me souviens.
Voilà. En tout cas, pourquoi cet aspect culturel est important d'après vous? Parce que si je vous en parle, c'est qu'il ne vous a pas échappé qu'actuellement, au regard des budgets de l'État, au regard des budgets des collectivités territoriales, il y a de sévères coupes pour la diffusion culturelle. Et la coupe la plus sévère est venue de celle de la région des Pays de la Loire, puisque la majorité régionale de Christelle Morancet a supprimé toutes les subventions à la culture. Et pourtant, pour vous, la culture, c'est une attractivité pour une ville, pour venir s'installer en ville?
Oui, pour moi, c'était une... mais je pense pour beaucoup, parce que c'est ce qui fait le lien aussi, et c'est ce qui fait la découverte de la ville. Moi, par exemple, j'apprécie beaucoup les musées. Et d'avoir fait cette gratuité avec toujours des expositions régulières, qui ça se renouvelle vraiment, des tas d'animations dans les musées. Moi, je sais que j'apprécie beaucoup, parce que venant d'une grande ville, c'est ce qui m'inquiétait le plus. Moi, je sais qu'à Paris, j'aimais aller voir beaucoup, beaucoup d'expos. Bon, chacun et chacune a un peu ses centres d'intérêt. Et là, vraiment, et la musique aussi, au Mans, le théâtre, que ce soit du théâtre de petite troupe, enfin, je dis petite par rapport à la scène nationale, sans arrêt, on a quelque chose à découvrir.
C'est quoi votre approche avec la culture au Mans, Anne-Marie Gillet?
Le
livre, évidemment. Ça, c'est incontournable, le livre.
Le livre, oui, bien sûr. D'abord, j'ai quand même fini par écrire un certain nombre de choses, mais c'était les circonstances aussi. Parce que on m'avait demandé d'écrire un livre sur une association caritative qui avait été créée en 1945. Ça s'appelait La Clairière. Mmh. Et je m'y intéressais à double titre, parce que j'avais 8 ans. À l'époque, et bien c'est que pour financer cette association, une dame avait créé une troupe d'enfants. Et l'association s'appelait La Clairière, et nous, on était les Poussets de La Clairière.
D'accord.
Alors au début, c'était des petites chansons, des petits tours, notre tour du chant, des chants, comme on disait. Puis après, la dame nous a fait jouer des petites comédies musicales. Alors, il y a eu Cendrillon, Ali Baba, les 40 voleurs, Le Chat botté, et puis notre heure de gloire, Les Trois Mousquetaires. où j'interprétais Richelieu.
Ah, quand même. Le cardinal.
Oui, oui, j'avais une barbe qui était faite avec les poils de mon chien, le Briard.
Non. C'est vrai.
Oui, oui. Non, mais vous savez que une année, la troupe de théâtre des enfants, on avait entre 5 et 12-13 ans, hein, a rapporté plus que la subvention de la ville à ladite association. C'est quand même un sacré budget.
Certainement, mais il ne faut pas trop le dire trop fort, parce que, vous savez, il y a certains élus, la région notamment, qui disent « débrouillez-vous sur le financement public ». Bon, en tout cas, on va revenir, si vous le voulez bien, et merci pour ces témoignages de vos propres souvenirs. Comment vous avez collecté justement les témoignages de cette période de la vie du monde? Donc, on le sait, vous êtes allé dans les maisons de quartier, dans les EHPAD, etc.
Les marchés, dans un bar, tout lieu.
Ça a commencé en août 2024, c'est ça?
Oui, un peu plus tôt.
Un petit peu plus tôt.
Un peu plus tôt, parce que ce sont tout de même des projets qui restent modestes, hein, mais c'est presque un projet d'un an. Parce que, c'est pour ça que nous l'avons aussi mené là avec le prix de la nouvelle francophonie inédite, parce que vous parliez de subventions.
Ah, et le nerf de la guerre des associations.
Je veux dire, c'est important pour justement développer tout cela, ne serait-ce que pour éditer, parce qu'on connaît bien toute la problématique des petits éditeurs aussi.
Éric Jamais, en l'occurrence.
Voilà, oui, tout à fait. Et puis après, quand on a eu ce projet, quand on a voulu parce qu'il a fallu... Nous rencontrions les personnes. Nous aimons mieux travailler avec plusieurs personnes parce que les gens sont pas forcément vont toujours vous dire vous savez, je n'ai pas grand-chose d'intéressant
à vous dire.
À
ça,
vous dire.
Oui.
C'est classique. On a l'habitude. Vous devez le trouver
oui,
vous
oui,
aussi.
Oui.
Et quand on travaille à quelques personnes autour d'une table, d'un café, là, les souvenirs rebondissent. Quelqu'un va commencer. Et puis après, ça va évoquer, voilà. Donc, on a travaillé de cette façon, donc à plusieurs, là, sur de notre association, il y avait des membres. Et là, bien, nous écrivions. Tout ce travail-là, il faut le retranscrire.
C'est ça, ça a pris un certain temps.
Tout ça prend du temps. Après, nous nous sommes dit, il va falloir, on voulait le faire éditer. Et dès le début, on l'a posé comme ça. On a demandé une subvention à la ville, on l'a posé quand on pose un projet que nous voulions éditer.
Parce que la ville a participé
au
financement de la parution.
Oui, la ville nous a aidés. Ça, je tiens à le dire parce que c'est très satisfaisant parce que ça fait, on termine par un beau travail.
Et un beau travail en plus que vous allez présenter en octobre lors du Salon du Livre du Mans.
Oui.
Faites lire.
Ah oui. Je peux laisser Anne-Marie aussi. Lorsqu'on a fait on a fait une parution du livre le 24 avril, on avait eu une salle, la salle des expositions au Quinconce pour les Mancelles qui connaissent. Et là, comme pour la première fois en 97, on a invité tous ceux qui nous avaient donné un souvenir, ceux qui voulaient venir. Et il y en a un grand nombre qui sont venus. On a eu la chance que Jacques Gouin veuille...
Comédien, bien connu au Mans.
Comédien, je vous laisse présenter, vienne lire des Je me souviens. Et ça a été très sympathique parce qu'il en disait, il lisait un Je me souviens, une personne se reconnaissait, il y avait un écho. Et c'est des moments de convivialité parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé, mais on s'en doutait, mais vraiment, les Mancelles sont très attachés à leur ville. Sont très soucieux de leur ville.
Mais comme vous, d'ailleurs.
Mais ce qui était extraordinaire, c'était justement le retour du public. Mais les gens sont partis, mais ils étaient heureux. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, mais eux ont eu beaucoup de plaisir de le retrouver dans ces conditions-là. Vraiment... C'était très très chaleureux notre journée du 24.
Alors par rapport à la collecte de ces témoignages, vous preniez des notes, comment ça se passait?
Eh bien, on oui. était, par exemple, on va par là. Il y a eu quelques fois dans un café. Une première fois, là, Iseville, c'était dans un café. On écrivait déjà. Après, oh, c'est sympa. Ben, on pourra rencontrer d'autres personnes. Ben, venez à la maison. Je vais inviter des voisins. Et donc, nous y allions. On a collecté. On essaie à chaque fois que la personne le souhaite, on met un nom. Sur le souvenir, si la personne souhaite. Quelquefois, ce n'est qu'un prénom. Après, ben, c'est comme ça que ça se passait. Puis ça fait un petit peu boule de neige, n'est-ce pas, Anne-Marie?
Tout
ça fait un petit peu boule de neige. Après, vous pourriez venir là. Bon, on avait sollicité aussi le Centre communal d'action sociale et pour aller justement avoir une introduction pour aller dans des maisons de retraite, même des EHPAD, où quelquefois on a été très émus parce que les gens se souvenaient plus beaucoup pour certains, la mémoire. Mais il y a quelque chose qui passait, qui passait par l'affectif. Il faut avoir le temps, il faut avoir envie d'écouter. Il faut avoir envie d'écouter, Et c'est tout ça qui s'est mêlé. Et puis, parce que déjà, la première fois avec Anne-Marie et là, avec notre petit groupe de la PNFI, eh ben, on n'est pas très inquiète, on y va, on... Je veux dire, on n'est pas très limité dans nos. On se dit tout va bien marcher, effectivement, tout roule.
Est-ce qu'il y a eu des témoignages particulièrement marquants de ce que vous avez entendu et que vous rapportez dans ce livre?
Ah oui, en particulier quelque chose qui s'est passé très près d'ici. C'est une dame qui habitait place Saint-Michel, c'est comme ça que s'appelle la place.
Oui, la place Saint-Michel.
Et elle nous racontait comment elle était élève à la Psalette lorsque on l'a prévenue que la directrice voulait la voir. C'était pour l'annoncer que son frère, qui avait été. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas de nouvelles de lui et qu'on l'avait retrouvé, c'était pendant à la fin de la guerre, et on l'avait retrouvé, il était rentré, elle allait pouvoir le voir. Et en fait, elle a raconté que son frère était considéré comme mort. Il était dans un tas de cadavres. Mmh. Et il y avait un Russe dont le rôle était, avec son crochet, de tirer les cadavres et de les mettre dans le four. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte que, oh là, celui-là, il bougeait encore, et il l'a mis de côté. Mmh. Et bien, il l'a sauvé.
Il y a des belles histoires qui sont des témoignages qu'on retrouve dans cet ouvrage. Alors, on sait évidemment le bien que ça fait de se souvenir et on devine bien comment ceux qui ont accepté et qui ont participé à ces témoignages, vous leur avez fait du bien. Mais vous, est-ce que ça vous a fait du bien? Qu'est-ce que vous retirez de tous ces témoignages-là?
Mais il n'y avait pas que des tristes. Hein. Par exemple, au collège Roger Vercel, quand c'était devenu mixte. Alors, un hiver, il avait beaucoup neigé. Le principal, il a dit, les filles sortiront un quart d'heure avant, de façon à ce que les garçons n'embêtent pas les filles. Donc, les filles sont sorties. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, un gros tas de boules de neige.
D'accord.
Et quand les garçons sont arrivés, ils sont bavardés. Non, non, il y a un peu de tout. Hein.
Voilà, il y a plein de moments de joie, de bonheur.
Pour nous, c'est un plaisir que de partager tout ça.
Oui, et puis, on s'est aperçu aussi beaucoup, par exemple, par rapport au travail. On s'est aperçu que là, on voit la force des femmes qui sont arrivées dans le monde du travail hein, depuis les années 50. Et là, moi, c'est ça qui m'a frappée. Toutes les femmes qu'on a pu voir, même âgées, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, elles travaillaient toutes. Et donc, on a collecté beaucoup aussi de souvenirs sur les lieux de travail, les conditions de travail, tous ces aspects-là. C'est en ça aussi que moi, ça m'avait frappé pour ce second, encore dans les années 70, je dirais 60-70, hein, ce que je dis n'est pas vraiment rigoureux, le fait que les femmes travaillaient encore à domicile,
oui,
sur des différents métiers, par exemple pour, je ne sais plus,
les boutons,
les boutons
encartés, les boutons
sur des plaquettes.
D'accord, oui.
Voilà. Donc, on a eu, il y a eu l'hôpital, pour celles qui travaillaient à l'hôpital, il y a eu beaucoup de choses sur Renault. On se rend compte de l'importance qu'il y avait, c'était une ville industrielle avec de grandes entreprises. Et là, après, les années récentes, c'est quelque chose qui est... Il n'y a plus la force de ces entreprises. Tous ceux qui ont témoigné par rapport aussi, par exemple, au comité d'entreprise... Et tout ce que ça a donné, d'ailleurs, il y avait aussi un témoignage au Carré Plantagenet quand ils ont fait cette très belle exposition sur la progression de la ville l'année dernière.
La mécanique
des quartiers, etc.
Il y a eu la muraille romane aussi.
Voilà, voilà. Et on voyait comment... Pour un homme, c'était souvent des hommes qui avaient travaillé dans de l'artisanat ou alors encore un travail d'agriculteur quand ils arrivaient dans des grosses entreprises comme Renault, avec le comité d'entreprise, comment ils ont découvert les vacances, la bibliothèque, des activités culturelles, tout ce qui était fait, les colonies, tout cela pour les enfants. Et en lisant ces souvenirs, nous en les collectant, mais après en les relisant, eh bien, on voit toutes ces comment la désindustrialisation de notre société, je dirais de la France en général, mais aussi un petit peu de notre ville. Comment, eh bien, ça va marquer une autre façon de vivre. Enfin, c'est la sociologie, hein, qui et ça, ben. On a été émus de le faire, notre équipe, que ça soit collecté et que des gens tout simples, des citoyens, puissent témoigner de cette chose.
Voilà, le CE Renault, hein, qui a été un grand, grand comité d'entreprise, qui a été complètement désintégré. Enfin, il n'existe plus aujourd'hui. Et Dieu sait qu'il avait une grande vocation d'accès à la culture, sa bibliothèque, et tout a été vendu. C'était dans les années 2010, hein,
c'est relativement récent. Ouais.
Je voudrais qu'on parle quand même un petit peu de l'association Prix de la Nouvelle Francophone Inédite, puisqu'elle participe à ce livre. On va citer notamment quelques de ses membres dont vous faites partie. Vous êtes à la présidence, c'est ça, toutes les deux?
Je suis la présidente
Dominique
Le
Bonafro, d'accord. Alors, il y a aussi Annick Joseph, à laquelle je fais un bisou si elle nous écoute. Jean-Luc Jouvin, Marie-France Esneau et Michel Grison-Lotte. C'est quoi la fonction de cette association, justement?
Eh bien, la première fonction, c'est d'organiser un prix de la nouvelle. Un prix de la nouvelle, notre nom a changé. Avant, c'était prix de la nouvelle de la ville du Mans. Et comme nous recevons, la condition est d'écrire en français. Voilà, une dizaine de pages au maximum. Hein. Et comme on s'est aperçu qu'il nous arrivait des nouvelles de différents pays, il y a 2 ans, c'était de Colombie, cette année, on a reçu d'Éthiopie, on reçoit de Belgique régulièrement, enfin des
Suisses. Ah, ça va loin, quand même, oui.
Du Canada,
du Canada, voilà, on a modifié. Donc, on organise ce concours. On remet toujours le prix lors du
Salon du Livre
maintenant,
octobre.
Faites lire. Voilà. Et il y a 3 ans, on a décidé de se lancer sur des projets d'écriture toujours liés à la mémoire. Et on en avait eu un premier, nous sommes sur la mémoire culinaire, qu'on avait appelé du garde-manger au garde-mémoire. Qu'est-ce qu'ils se souvenaient les gens dans leur vie, c'était des gens âgés, c'était dans un EHPAD, qu'est-ce qu'ils se souvenaient, qu'est-ce que ça représentait pour eux, tout ça. Et voilà. Là aussi, on les a écoutés, on a retransmis. On avait fait une brochure avec un jeune photographe, Igor Bortnikov. On essaie toujours de travailler avec des locaux.
Voilà, alors le concours est lancé là, il va se terminer le 15 juin. Le premier prix est de 300 euros, le deuxième de 200 euros. Le thème, c'est frontières, très très rapidement. Pourquoi ce thème frontières?
Parce que c'est...
Vous avez été inspiré par le président Trump
Non, parce que c'était avant qu'on a choisi ça. Mais c'est quand même... Ça peut être à la fois une ouverture et une clôture, et c'est ça qui est intéressant dans le thème de frontières. C'est est-ce qu'on la passe, la frontière, ou est-ce qu'on ne la passe pas? Et c'est vrai dans tous les domaines.
C'est frontières sociales, les frontières psychologiques qu'on peut se mettre. Voilà,
pour envoyer son ouvrage, on fait comment?
Eh bien, on l'envoie à la PNFI.
Donc c'est l'association Prix de la Nouvelle Francophonie Inédite.
Voilà, l'adresse c'est 15 bis avenue de Paderborn, 72 000 Le Mans.
Voilà, on l'envoie en numérique ou en papier?
Alors, on l'envoie en papier, on va aller vers le numérique, nous pensons, parce que c'est ainsi.
Pour vendre des livres, il faut des librairies et des libraires. Anne-Marie Gillet, vous avez été gérante au Mans de la librairie Doucet dans le début des années 2000, avant qu'elle ne soit reprise en 2005 par Marie-Adélaïde et Olivier Dumont. La librairie est depuis février en redressement judiciaire et rencontre des difficultés à trouver un repreneur. Comment vous, en tant qu'ancienne gérante de la librairie Doucet, vous vivez cette situation sur l'avenir de cette librairie qui est quand même incontournable au Mans, comme la librairie Thuard d'ailleurs?
C'est très, très triste parce que la librairie Doucet, elle était d'abord rue Nationale. Tout le monde connaissait la librairie Doucet. Enfin, ça a d'abord été une imprimerie, était en haut de la rue Nationale. Puis ça a été une librairie. Et c'est toujours triste de voir une librairie se fermer.
On espère en tout cas qu'elle trouvera un repreneur, malgré toutes les difficultés apparemment, qui ne séduisent pas autant que ça des repreneurs.
Non, non.
Bon,
on a déjà perdu Pluriel.
Oui.
On a perdu Récréalivre. Et maintenant, on perd Doucet. C'est pas bon signe.
Bon, Anne-Marie Gillet, c'était comment votre tour dans le studio de Radio Alpa, puisque vous avez été l'une des premières bénévoles en 1982?
Oui,
ça fait quoi, alors, de revenir dans un studio auquel on a participé à lancer les programmes de Radio Alpa?
J'ai eu beaucoup de plaisir à revenir, hormis que j'ai beaucoup de mal à monter l'escalier, parce que 82, ça fait loin, Jean-Yves, ça fait très loin.
Ben oui, c'est vrai, mais vous avez toujours la forme, Marie Gillet, 88 ans, c'est ça?
Oui, 89 le mois prochain.
Ah, et ben bon anniversaire déjà.
Merci.
Merci beaucoup Anne-Marie Gillet et Dominique Benoît Fraud pour nous avoir présenté le deuxième tome du recueil de souvenirs. Je me souviens Le Mans de 1960 à 1920, qui est donc édité par le Sartois Éric Jamais. Un recueil qui est disponible dans toutes les librairies du Mans pour la modique somme de 14 euros. Et rappelons que le tome 1 que vous aviez publié en 1997 vient d'être réédité. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à Evan Guette pour la réalisation technique de cette émission. Merci.